communion. Nous avons besoin de ta parole vivante à notre égard. Seigneur, te louons pour la parole de la vie. Louez le Seigneur. Il y a deux avertissements de l'apôtre Jean dans le chapitre 2. Le premier avertissement est « N'aimez pas le monde », comme nous venons de le lire. Car derrière le monde se cache Satan. Ce n'est pas si évident, mais caché derrière une belle façade, afin que ça plaise aux personnes qui ont envie du monde. C'est le premier avertissement de l'apôtre Jean. Et le monde n'est pas seulement des choses qu'on voit extérieurement, mais Jean dit que c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil vain de la vie. Ce ne sont pas juste les choses matérielles que nos yeux voient, mais dans notre chair, il y a le désir après ces choses. Et ça, c'est le monde. Je remercie le Seigneur qu'il nous donne un avertissement, que nous ne tombions pas dans ce piège, mais que nous continuions, que nous puissions voir au travers et que nous ne soyons pas détournés par ces choses. C'est un grand danger pour chacun d'entre nous. Ça a l'air très beaucoup mieux, mais derrière se cache la mort. C'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il devrait en fait s'appeler l'arbre de la mort. C'est l'arbre de la mort, mais il ne s'appelle pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il se cache, la mort se cache derrière une merveilleuse connaissance du bien et du mal, quelque chose qui a l'air bien. Mais si nous mangeons de cet arbre, nous mourrons, comme dit le Seigneur. L'ennemi travaille de cette manière. C'est très différent de l'art de la vie. Tu viens au Seigneur. Le Seigneur vient, est venu pour vous donner la vie. Nous savons tout de suite ce que nous recevons. C'est pourquoi nous avons besoin de l'arbre de la vie. Il est beaucoup plus simple. Mais un deuxième avertissement concernant dans le chapitre 2, et c'est l'avertissement concernant les nombreux antéchrists. Un signe que nous vivons dans la dernière heure. Page 5 du résumé. Ces deux avertissements sont très actuels pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Jean dit au verset 18, c'est la dernière heure. Dans 2 Pierre 3, dans la dernière conférence, nous avons parlé de cela. Il nous parle des derniers jours. Jean, maintenant, nous parle de la dernière heure. Qu'est-ce qui est plus proche ? Les derniers jours ou la dernière heure ? Dernière heure. Ça signifie aussi dans cette suite des épîtres comment le Seigneur veut nous préparer pour son proche retour. C'est toujours plus proche. Dans Jean, c'est la dernière heure. Ensuite, il n'y a que de la révélation. Alors, c'est vraiment là, c'est la fin. C'est la dernière minute. C'est le livre de l'Apocalypse. C'est la dernière seconde, parce que c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Et ici, nous voyons, c'est la dernière heure que l'Antéchrist vient. Il y a beaucoup d'Antéchrists qui sont venus. C'est à cela que nous connaissons que c'est la dernière heure. Ces dernières années, nous avons vu tellement de signes des temps qui doivent nous prouver qu'il s'agit vraiment de la dernière heure. Ce n'est pas juste une parole de Jean, mais c'est pour nous, aujourd'hui, la réalité. Si nous considérons la politique, nous voyons que c'est la dernière heure, si nous considérons Israël, ce qui est en train de se passer là-bas, avec les accords d'Abraham que nous avons vus souvent, c'est un signe des temps, de la dernière heure. La société aussi, les jours de Noé et de Lot, nous sommes en plein dedans. Nous ne sommes pas si loin de la venue du Seigneur. Regardez la fin de la démocratie. Elle est en train de s'écrouler. C'est un signe des temps que c'est la dernière heure. Daniel en a parlé. Vous pouvez regarder sur la ligne du temps que nous avons ici derrière. Il y a beaucoup de signes des temps qui sont listés de gauche à droite pour montrer que c'est vraiment la dernière heure. Mais Jean nous montre un autre signe des temps que nous pouvons reconnaître, qu'il s'agit vraiment de la dernière heure. Nous pouvons l'ajouter ici derrière. Ce sont les nombreux antéchrists. L'apparition de nombreux antéchrists est une preuve que nous sommes vraiment très très proches de la venue du Seigneur. Si nous entendons le mot antéchrist, d'abord nous pensons à la bête dans Apocalypse 13. Ça, c'est l'antéchrist. Mais Jean nous parle ici avant que celui-ci vienne, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont venir, des antéchrists, qui préparent la venue et qui annoncent la venue de l'antéchrist avec un grand A. Ne voyons-nous pas beaucoup d'antéchrists autour de nous? Partout où nous voyons, il y a des antéchrists qui sont ici et là. Durant ces dernières années, nous avons expérimenté de manière vivante que ceux qui déterminent notre futur, les politiciens, ils préparent la venue de l'antéchrist par leurs décisions. Cette pandémie, il l'appelle plandémie, qui a été instaurée de manière mondiale, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est préparé pour la venue de l'antéchrist? Ici, à Stuttgart, nous n'avions même pas le droit d'aller chez le coiffeur sans être vacciné. Imaginez-vous cela. Qui a ordonné cela? Est-ce que ce n'est pas l'esprit de l'antéchrist qui, à la fin, a déterminé pour qu'on puisse seulement acheter et vendre avec un certain signe? La censure aussi nous montre que c'est un esprit de l'antéchrist. Si tu dis quelque chose contre le vaccin sur Internet, tout à coup, ton message est effacé. Ou bien tu te retrouves même en prison avec les meurtriers. Les meurtriers, les criminels sexuels sont en liberté et ceux qui ont le courage de dire quelque chose contre le vaccin sont enfermés. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. Ils sont tous venus pour préparer la venue de l'antéchrist. C'est à cela que nous voyons que c'est la dernière heure. Mais Jean ne nous parle pas seulement de tels antéchrists dans le monde, ça c'est une chose, mais il nous parle aussi d'une catégorie spéciale, au verset 19, d'antéchrist. Ils sont sortis du milieu de nous. Ça signifie qu'il parle et l'avertit aussi de ceux qui tordent la parole de Dieu, qui vivent dans l'arrière-plan chrétien et qui détournent le peuple sur des chemins perdus, sur des chemins détournés. Et Jean a combattu contre une telle influence par son épître. Il y avait tellement d'influence venant d'enseignements chrétiens. Et ceux qui apportaient de tels enseignements, Jean les nomme des antéchrists. Au verset 22, nous avons lu, quelques-uns ont dit que Jésus n'était pas Dieu. Verset 22, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Autrefois, il y en a quelques-uns qui répandaient le fait que Jésus, en effet, était là parmi nous, mais qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Fils de Dieu, il n'était pas Dieu. Et contre celui-là, Jean est en train de combattre par son épître. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Ils avaient vraiment une approche tordue de Jésus-Christ. À l'époque, on disait, oui, le Christ terrestre n'est pas le même que celui qui est céleste. Parfois, ils sont séparés. Ils ont tordu toute la parole pour influencer le peuple chrétien. Et Jean les nomme des antéchrists parce qu'ils les détournent du Seigneur. Et il l'a dit aussi dans 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Mais pas seulement eux, il y en avait aussi d'autres parmi les enseignants chrétiens qui ont annoncé que Jésus n'était pas un véritable homme. Certains ont emmené les croyants dans le doute en disant que Jésus n'est pas Dieu et d'autres amenaient le doute en disant que Jésus n'était pas un véritable être humain. C'est le problème de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Autrefois, ils ont répandu, entre autres, cet enseignement que Jésus n'est pas venu en chair. Ils ont dit, oui, c'était un fantôme, on l'a vu, mais ce n'était pas la chair et le sang, c'était juste une apparition de Jésus. Il n'a pas souffert, il n'est pas mort à la croix, il n'est pas monté en ascension, il n'est pas ressuscité. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. Il est déjà dans le monde. Ça, c'était autrefois. Quand Jean a écrit dans son épître pour avertir les croyants pour ne pas être trompés par de tels enseignements. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est devenu plus fin. Aujourd'hui, en principe, nous avons exactement le même problème. Peut-être pas sur le même plan. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas un homme, mais il y a beaucoup d'enseignements chrétiens et des représentations, des interprétations personnelles qui tordent la parole de Dieu et qui conduisent les croyants dans la confusion. Par exemple, le baptême des enfants. Les baptêmes des enfants n'en parlent pas, n'est pas parlé dans la Bible. Et il y en a des milliers qui sont trompés et qui pensent que c'est suffisant. Oh Seigneur, dans 1 Timothée 4, au verset 1, il est écrit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, etc. » Ça, ce sont les antéchrists qui répandent de telles choses parmi les croyants. Où il y en a beaucoup dans ces jours qui disent « Oui, quand le Seigneur reviendra, il n'y a pas de problème. Nous allons tous être enlevés. Il n'y a pas d'enjeu. » peu importe ta marche, comment est ta vie, pourvu que tu sois né de nouveau, tu seras enlevé. Est-ce que la parole dit cela? Non. Cependant, il y en a beaucoup qui répandent ce mensonge. Et d'autres disent, mais personne ne va être enlevé. Tout le monde devra traverser la grande tribulation. C'est aussi un faux enseignement. Aussi en ce qui concerne l'adoration. Le Seigneur a dit de manière très claire dans Deutéronome que nous ne pouvons pas adorer selon notre propre représentation. Mais chacun a sa propre interprétation de ce thème. Et chacun prêche et pense que ce qu'il prêche est juste. Ainsi, malheureusement, beaucoup sont détournés. Ainsi, les antéchrists dont Jean parle ici, ils sont sortis du milieu de nous, comme au verset 19, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est très clair. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et exactement cela, Paul l'a mentionné. Ils ont parlé de telles personnes qui sont sorties du milieu de nous. C'est dans Actes 20, au verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels, c'est aussi un animal. Ils ont tous un lien avec les animaux. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront, des anciens, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ils étaient aussi au milieu d'eux, mais ils sont sortis et ils se sont révélés comme étant des loups cruels. Jean nomme de telles personnes des antéchrists. Paul les a aussi définis comme étant des chiens dans Philippiens 3, dont on doit se méfier. Nous avons vu aussi sur la conférence dans 2 Pierre 2 qui parle et qui expose les faux prophètes. Pierre les nomme les faux prophètes. Jean les nomme les antéchrists. Et Jude les nomme les moqueurs peu raisonnables et qui se moquent. C'est la même catégorie. Mais ce sont plusieurs définitions de ces antéchrists qui détournent les croyants. Oh Seigneur, c'est pourquoi il est si bon que nous recevions un avertissement de Jean. Comment peut-on être sûr dans un tel environnement que nous sommes en train de suivre le Seigneur et pas un antéchrist? Comment avons-nous cette assurance? De l'Internet? Tu peux prendre Google et chercher. Et tu peux demander, envoyer un message. Est-ce que tu es l'Antéchrist? Tu vas recevoir une réponse, mais cette réponse ne sera certainement pas ta protection pour savoir qui est l'Antéchrist. Tu peux peut-être lire beaucoup de livres. Beaucoup de chrétiens lisent, aiment lire de beaucoup d'auteurs. Et les croyants ont leur auteur préféré. Après, ils regardent que dit tel et tel sur le détournement. Après, ils font le tour et ils demandent à tout le monde. Est-ce que ça va te donner une protection de l'antéchrist? Est-ce que ça va te permettre de savoir si c'est une tromperie ou non? Nous avons un canal YouTube et certains écrivent leurs commentaires à cet endroit. Et dernièrement, j'ai lu un commentaire, quelqu'un a écrit « Ce que vous enseignez est du non-sens. Je préfère écouter l'enseignement théologique théologique du docteur tel et tel. Tu préfères entendre l'enseignement du docteur tel et tel. Est-ce que c'est une protection contre les faux prophètes? C'est très boiteux. Le diable peut se cacher derrière de telles personnes. Quel est le seul chemin pour recevoir de la clarté à nos yeux, pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière? Au verset 20, il est écrit, vous avez l'onction. Ça, c'est la réponse. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous devez analyser, essayer de comprendre, lire des livres? Jean est très simple. Il dit que vous avez l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous savez, au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. L'onction nous enseigne la vérité. Dans toutes les autres choses, nous ne pouvons pas être si sûrs. Il y a tellement de mensonges. Et certainement, l'ennemi et l'antéchrist utilisent ces choses pour détourner les hommes. Alors je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Jean parle dans son épître de l'onction? En fait, la seule fois où ce nom est mentionné, nous savons que c'est le Saint-Esprit ici qui est mentionné. Mais Jean ne dit pas que vous avez le Saint-Esprit, mais il parle de l'onction. Ce merveilleux mot « onction » vient de Exode 30. Quand Dieu a ordonné à Moïse de produire une huile d'onction avec de l'huile d'olive, avec beaucoup d'ingrédients qui ont été mélangés et qui ont été utilisés pour le service sacerdotal et aussi pour oindre les rois. Ça m'a montré, ça c'est le chemin que l'onction utilise pour nous enseigner la vérité. Dans cette merveilleuse onction, il y a tout ce merveilleux être du Seigneur qui est compris dedans. Son humanité, sa mort, sa résurrection, tout ce que le Seigneur a accompli, sont compris dans le Saint-Esprit. Et à chaque fois que l'onction nous enseigne, alors cet être du Seigneur, la nature du Seigneur entre en nous. C'est beaucoup mieux qu'un professeur extérieur. Et cette onction habite en nous et apporte l'être, la nature du Seigneur en nous. Si tu as la nature du Seigneur, alors tu n'as pas besoin d'être persuadé. Tu le sais. Tu connais intérieurement quelle est la vérité. Même les crèmes, si tu achètes une crème, eh bien, les ingrédients de la crème entrent dans le corps. Il en est de même avec l'onction que le Seigneur veut nous donner. Louez le Seigneur, ça c'est merveilleux. Et à la fin, le but de l'onction est, elle fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est ce que nous avons entendu ce matin. C'est le but que le Seigneur veut nous faire atteindre. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser détourner par un antéchrist. L'onction va nous enseigner et d'être des rois et des sacrificateurs. Et Jean l'a dit clairement dans Apocalypse 1. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et je remercie le Seigneur pour l'enseignement de l'onction. Le verset 28, il nous dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. que le Seigneur habite en nous, nous n'avons pas de doute, mais le fait que nous demeurions en lui, nous avons besoin de l'onction. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Il en va de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ça a un effet merveilleux sur notre marche. Louez le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oui, le fait que le Seigneur demeure en nous, nous